et de vous voir nombreux et aussi mixte, mais pas assez d'hommes. J'ai remarqué que c'est un manque d'information. Les hommes ne sont pas assez informés. Donc, je vous demande de faire tout pour informer votre entourage. Le yoga, ce n'est pas une forme de gymnastique. Ce n'est pas un truc à chier. Le yoga, c'est un mouvement vers de plus en plus d'harmonie intérieure. Sans l'harmonie, la vie ne ressemble à rien. Donc, c'est la voie du bonheur. Mais le temps que nous passons sur le tapis, c'est un moment privilégié. Et là, on apprend à bouger en pleine conscience. Là où on apprend à respirer consciemment. Là où on apprend à réfléchir. À réfléchir, ça c'est notre défi. Réfléchir en pleine conscience. Pour que la pensée soit liée à ce qui est. Aussitôt que la pensée ne connecte plus avec ce qui se passe vraiment dans le monde, nous sommes dans le délire. Donc, surtout, c'est ça. Le yoga cherche à éliminer et rien d'autre. Donc la pensée devient simple pas, c'est-à-dire chaque pensée va réaliser. Et nous allons plus loin encore, on va comprendre que chaque pensée est attachée avec une émotion. Et cette émotion, le corps est émotionnel, également devenir capable de dépasser. C'est ainsi que le yoga a pris comme lotus le symbole d'épanouissement. Il faut pouvoir traverser le couche d'eau qui représente l'émotion pour s'ouvrir. Si nous sommes encore prisonniers de notre corps émotionnel, ça nous empêche de s'ouvrir à la tranquillité pour dégager l'appartement et la pause. Ce moment, je voudrais passer avec vous, avec interaction corporelle. N'hésitez pas à vous sentir libre pour dialoguer avec moi. C'est la première partie, nous allons passer une heure. C'est une heure, ce n'est pas un moment où je vais vous donner des informations que vous allez partir avec. Juste le contraire, vous allez cheminer ensemble avec moi pour produire un enseignement. Produire un enseignement. C'est-à-dire, ce n'est pas quelque chose que déjà compris, mais tout neuf. C'est la production de l'enseignement. À l'intérieur de vous, par vous, c'est notre objectif. La raison, c'est si vous n'avez pas trouvé un enseignement à l'intérieur de vous, par vous-même, ça ne va pas nous aider. Suivre c'est un moment en vrai. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. Hein. Si vous suivez, vous laissez guider quelque part. On m'amène quelque part, et puis, comme quelqu'un qui prend en charge, donc je ne fais pas attention. Pour revenir à la maison, ça va être compliqué. C'est un peu comme ça. Donc, c'est une aventure, et on est tous responsables. Et je sais. Vous êtes très cher pour moi et vous allez partir après. ces deux jours, je ne vois, je ne sais pas qu'est-ce que vous allez dire, qu'est-ce que vous allez faire, tout ça, je ne suis pas là. Donc, votre propre lumière sera toujours avec vous. Donc, ces deux jours, c'est pour augmenter notre visibilité personnelle. Je pense que vous avez bien compris. C'est votre propre lumière et votre protecteur. Donc, mon objectif, c'est pas vous donner des recettes et un mode d'emploi que vous allez mettre en place à la maison. C'est pas du tout ça. Je voudrais que vous découvriez vous en tant que maître, en tant qu'enseignant pour vous-même, pour prendre en charge, comme moi je le fais, c'est-à-dire prenez en charge de vous-même. C'est ça notre objectif, donc n'oubliez pas. Et cet accueil, j'apprécie énormément. Et je compris, plus qu'on avance, plus qu'on a besoin de yoga. Plus qu'on avance technologiquement, plus qu'on avance au niveau de notre civilisation, l'humanité, plus qu'il avance, on a besoin de yoga. Parce que ce qu'on appelle avancer, c'est éloignement de soi-même. Donc, tous les symptômes sont là. Plus qu'on avance, plus qu'on se détruit, parce qu'on s'éloigne de soi-même. Donc, la remède, c'est de retourner à l'essentiel, qui n'est rien d'autre que notre propre essence. Donc, le retour, c'est la remède de cette avancée qu'on voit. Donc, c'est important de considérer ça, c'est une réponse très silencieuse mais ferme. Le yoga, c'est pas beaucoup pour lui, mais c'est ferme. C'est résolu. Yoga, c'est réaliste. Et il n'y a pas de rêve, il n'y a pas de croyance. C'est simple, c'est ultimement simple. C'est aussi efficace. Donc, c'est pour cela que les milliers d'années, cette tradition peut survivre et arriver jusqu'à nous. Et aussi, je voulais que vous ressentiez que le yoga n'est pas quelque chose qui vient de loin, c'est votre véritable racine. De votre propre culture. Ça, n'oublie pas, malgré qu'il y a eu certaines ruptures qui ont duré peut-être 1500 ans, il faut pouvoir reconnaître véritable racine. C'est pour ça que j'ai toujours remarqué en vous. Il y a la même adoration de la nature que chez les hindous. En vous, il y a cette appréciation de la nature. Peut-être vous hésitez de le sacraliser comme nous, comme Gange, comme l'Himalaya, comme tout l'arbre. Tous les animaux sont sacrés, peut-être vous entendez que la vache est sacrée, mais c'est pas que la vache est sacrée. Tous les animaux sont sacrés, il y a des temples dédiés pour le chat, le souris, le chien, les arbres, les éléphants, tout les formes de vie est sacré. Donc le monde est divisé en fait dans deux camps, ceux qui apprécient et aiment la nature, ceux qui détruisent. Donc, je ne connais pas d'autres divisions, peu importe quel nom soit c'est beau. Le profit, soit pour la croyance, soit pour. Il y a deux camps. Donc nous sommes fait partie de ce peuple qui aime la nature parce que notre corps est 100% naturel. Donc notre amour de la nature, on peut commencer avec le corps et à travers nos corps. Et le corps est notre véritable champ d'action. Donc le sujet que nous voulons explorer, c'est les champs. Ça vient de deuxième chapitre de la Yoga Sutra de Patanjali. Donc je vous invite, ceux qui ne connaissent pas le Yoga Sutra, je vous invite vraiment de le procurer. Ce n'est pas très compliqué, vous pouvez simplement télécharger le Yoga Sutra et c'est disponible. Facilement trouvé, il n'y a même pas l'obligation de l'acheter. Il y a des tonnes de commentaires, peut-être qu'on peut se passer dans les commentaires, donc soyez curieux de savoir l'écrivain, qu'est-ce qu'il vous dit, Patanjali, l'écrivain, qui ne prend pas du tout la place d'un acteur de yoga. Je dis, je suis que une personne qui a rassemblé toutes les textes, les connaissances existantes. Donc, le yoga a une histoire bien plus lointaine que cette écriture qu'on trouve le plus ancien. Et le copie que j'ai, c'est François Nassé qui a un cadeau parce qu'elle a donné les traductions de chaque mot du sanskrit et toutes les possibilités de traduction, toutes les mots correspondants. Donc ça va nous aider à trouver notre propre interprétation. Ça c'est important parce que tous les commentaires sont des opinions des commentateurs. Et ce n'est pas du tout certainement l'écrivain qui vient nous communiquer. Donc il est important d'écouter Patanjali. Donc il a écrit d'une telle façon, en sachant qu'il utilise son cerveau, il communique avec d'autres cerveaux, ils ne sont pas dans la même époque, bien sûr. C'est écrit il y a 2300 ans. Mais les Indiens croient que c'est au-delà de 5000 ans. Peu importe. De toute façon, une chose c'est clair. Un cerveau qui est infecté de plein de dysfonctionnements a besoin d'être rectifié. Donc ça, c'est possible que si ce cerveau se connecte avec un cerveau qui fonctionne bien. Donc le cerveau que nous parlons ici, c'est rien d'autre que le cerveau de Patanjali. Donc toutes les idées sont sorties d'un cerveau qui n'est pas dans l'illusion. Donc à travers Yoga Sutra de Patanjali, nous avons la chance de connecter notre cerveau avec un cerveau qui n'est pas un ami. C'est précieux, prenez ça, c'est important, parce que l'humanité change, il va d'une époque à une autre époque, et l'ambiance psychologique mondiale nous a imprégnés. Et en plus, avec une éducation qui est collective, quasiment pareil partout, nous sommes face à une information, une sorte de formatage collectif. Donc c'est très difficile de sortir de ce conditionnement et regarder le monde qu'il est. Donc, Patanjali qui nous dit des choses que nous allons regarder, qui peuvent révéler révéler la telle façon que nous on fait collectivement fausse route, l'humanité. La fausse route, ce n'est pas forcément sans avantage. Il y a des avantages. L'avantage, c'est ce qu'on voit. On a des avions, on a des technologies. Tout ça, c'est parce que beaucoup de gens travaillent, qui sacrifient leur temps pour avoir tous ces progrès technologiques. Donc nous avons la chance de comprendre que si on avance plus loin, c'est notre destruction. Donc il y a tout un intérêt de remettre en question notre avancée technologique. Donc, Patanjali nous donne certaines idées. Donc, nous allons commencer avec ces cinq kleshas qu'il a proposées. Après avoir parlé du but de yoga, le but de yoga, c'est équilibre. Je ne sais pas combien de novices qui sont ici. Pouvez-vous lever les mains, ceux qui ne connaissent pas du tout de ce que je dis. Donc, pour tous les restes, vous connaissez bien le Yoga Sutra, combien de personnes qui ont déjà étudié, je peux voir. Donc, merci beaucoup. Donc, pour vous, assez mixte, donc je introduirai le sujet à la fois compréhensible pour ceux qui ne connaissent pas du tout et aussi pour ceux qui ont déjà étudié, mais intervenez pour approfondir. C'est-à-dire, si vous connaissez, vous avez déjà étudié, intervenez, posez-moi des questions pour qu'on puisse avancer ensemble. Le but de yoga, je vous avais dit, équilibre. Donc, équilibre, le mot équilibre, en sanskrit, on dit sama, 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 équilibre, samada. Donc, ti, ça veut dire notre faculté de prendre une décision. Donc, la faculté, ici à côté, si vous voulez, si le soleil qui vous gêne, ne vous inquiétez pas, ici, il y a beaucoup de place. Toutes les décisions que nous avons prises dans notre vie qui nous a amené là où on est aujourd'hui, n'est-ce pas? Donc, si on n'est pas bien là où on est, ça veut dire qu'il y a un dysfonctionnement dans notre faculté d'équilibre, faculté de transition. Vous comprenez? Donc, collectivement parlant, l'humanité est arrivée là où elle est, c'est parce qu'il y a un dysfonctionnement dans les facultés de décision, donc bouti. Donc, quand le bouti est un état d'équilibre, qu'on appelle samadhi. Samadhi. Samadhi, c'est l'objectif du yoga. Samadhi, c'est état d'équilibre de notre fonctionnement psychique. Si on cherche l'équilibre, ça veut dire qu'on a déjà pris conscience qu'on n'est pas dans l'équilibre. N'est-ce pas? Donc, une recherche d'équilibre est se manifeste tout le temps, pas. La recherche d'équilibre, c'est tout le temps. Quand vous marchez, quand vous êtes debout, ou même assis, dans votre vie, dans toutes les vocation de notre vie, il y a sans cesse il y a une recherche d'équilibre. C'est pas uniquement pour les êtres vivants, pour le soleil, pour la lune, pour les étoiles, il y a tout le temps la recherche d'équilibre. Si les activités dans le soleil, ça perd l'équilibre immédiatement, soit ça s'éteint ou ça s'explose. C'est pareil, les planètes, s'ils ne sont pas dans l'équilibre, ils peuvent tomber à être attirés par les autres planètes, etc. Donc il y a un équilibre, une recherche d'équilibre et inhérent à notre existence. C'est également vrai pour chaque particule dans les atomes. Équilibre. C'est le même équilibre que nous parlons, c'est l'essence de la vie, de la conscience. Donc, pour être un état d'équilibre, nous avons besoin de la conscience. On est tous d'accord. Et, donc, on perd conscience, on perd le plus. Comme la planète, comme notre vie aussi. Donc, prenez conscience de cette. Recherche, c'est sans cesse. Donc, si vous ressentez l'agitation intérieure, on est à la recherche d'équilibre. Plus qu'il y a l'agitation, ça veut dire plus qu'on a besoin d'équilibre. Quand l'équilibre est lointain, l'agitation est au sommet. Donc, il y a, quand vous remarquez, il y a un débit important derrière les paroles. C'est le signe de notre distance entre l'équilibre et nous. Et quand on s'éloigne vraiment loin, loin, loin de notre équilibre, les paroles vont prendre contrôle. L'agitation intérieure va prendre contrôle de nos facultés d'action. Des perceptions. C'est-à-dire, nous sommes dans un état où on a besoin de calme. Nous ne sommes plus capables d'écouter et entendre les autres. Donc, les personnes comme ça, ils peuvent parler seuls et que leurs actions sont au-delà de toutes les logiques. De l'amour. Donc la notion d'amour, n'oublie pas, c'est ça fondamentalement dans le yoga. Quand il y a plus de conscience, il y a plus d'amour. Quand il y a moins de conscience, il y a moins d'amour. En fait, chercher à connecter la conscience avec l'amour, parce qu'il y a cette valeur indissociable. Quand il y a une augmentation de plus de conscience, il y a parallèlement, il y a prendre soin. Donc, yoga, quand on cherche l'équilibre, ça veut dire c'est une recherche de prendre soin de soi et des autres. Donc c'est pour cela le sujet, les kleshas sont évoqués. Je pense que tout le monde est conscient de la vérité, mais le souci c'est de le vivre. Donc les méthodes pour faciliter pour que ce soit vivable que nous parlons. Il y a 5 flèches. Les 5 flèches. Même si on a dit qu'on va passer quelques heures dans la matinée, quelques heures après-midi, je pense que je vais utiliser la méthode de Patanjali. On dit tout et on revient encore sur le divin. ça, au cas où si vous n'êtes pas là demain, quand même vous allez avoir l'ensemble. Je suis dans la l'appréciation de votre concentration et écoute. Vous avez remarqué, c'est vous qui avez décidé de diriger votre attention sur les paroles. Vous avez décidé. Vous avez dirigé l'attention. Et vous êtes sans cesse en train de traquer toutes les informations, voire le noter, en disant que peut-être je vais revenir sur le sujet. Donc cette activité est basée sur la dualité. Cette activité, c'est-à-dire la conscience qui est dirigée vers l'extérieur, et vous m'écoutez, et aussitôt vous allez diriger votre attention vers soi, et vous mesurez les impacts de toutes les paroles que vous entendez par rapport à votre mémoire, votre connaissance, vous comparez, et comme je n'arrête pas de parler, vous êtes obligé d'en revenir, quitter vous-même et revenir pour m'écouter. Donc ce mouvement, c'est un mouvement de l'ego. C'est un mouvement de l'ego. C'est-à-dire moi et vous. Cette dualité est projetée. Cette dualité est projetée. Et on le croit à ça. Cette dualité est fonctionnelle. C'est ça qui est le fondement de notre vie. Après le stage, vous allez rentrer à votre maison, pas chez moi. Vous rentrez chez vous. Vous retournez dans votre histoire, votre vie, donc le moi, je reste comme une entité bien réelle, mais c'est une phrase. C'est une croyance. Mais cette croyance a pris corps. C'est une croyance parce que ce n'est pas vrai. Et ça a pris quand même de l'ampleur. C'est cela qui va déterminer toutes vos actions, toutes vos paroles, toutes vos pensées. Et comment c'est arrivé? C'est arrivé par le premier péché. Le premier péché, c'est ignorance. Ignorance. Donc nous ignorons quelque chose. N'oublie pas. N'oublie pas cela. Nous vivons notre vie en oubliant quelque chose. Donc l'ego ne peut pas fonctionner sans savoir oublier. C'est-à-dire que je suis en train de vous parler, mais avec prudence, quelque chose qui trouble le fondement même de notre existence. C'est-à-dire, ce mouvement entre objet et sujet est basé sur cette illusion de dualité. Illusion de dualité. C'est-à-dire, les vibrations de vos tympans que je suis en train de vous montrer est interprétée par vous. En fait, vous ne m'écoutez pas. Vous n'êtes pas en train de m'écouter. Vous êtes simplement dans votre vie privée, à l'intérieur de vous, vous êtes en train de donner des sens à ce petit vieux aussi. Vous êtes en train de donner des sens. C'est vous qui donnez du sens. C'est pas moi qui donne du sens. C'est pour ça que chacun comprend différemment. Et dans cette activité, il y a quelque chose qu'on avait oublié. Nous avons oublié notre propre véritable nature. Donc, ignorance, donc au premier Krishna, Padatari, il nous dit on néglige quelque chose qui n'est rien d'autre que soi. Soit en tant que le tout. C'est-à-dire, pour projeter un film, nous avons besoin de créer l'obscurité, n'est-ce pas? En plein soleil, on pouvait faire exactement pareil sur un écran, vous pouvez projeter en plein soleil, vous ne verrez rien. Donc, ignorance, c'est la maison. Donc, nous vivons dans une maison de l'ignorance. Ignorance, on a ignoré notre véritable nature pour pouvoir vivre notre vie d'ego. On fait ça, bien sûr, inconsciemment. Et puis on se dit, qu'est-ce que j'ai fait avec mon ego? Et on entend, il faut l'effacer, il faut tuer, même quelquefois on utilise le terme, il faut tuer son ego, effacer son ego. L'ego, c'est le problème. Et yoga nous donne une véritable interprétation. C'est parce que yoga, c'est une science, c'est pas une religion. C'est comme mathématique. C'est exact. C'est précis. Nous avons besoin de s'ignorer notre véritable nature pour vivre la vie de l'ego. C'est-à-dire, si vous réalisez votre véritable nature, immédiatement, vous allez devenir comme Bouddha. Il n'y a absolument aucune nécessité de l'action. Parce que Bouddha est éveillé, il a compris que tout ce qu'on fait, ça fait de l'effet contraire. Tout ce qu'on fait, ça fait du bien et ça fait du mal en même temps. C'est pas la peine de faire quelque chose. Oui. Donc on est stabilisé, on est bien. Donc aussi, imagine que 7 milliards d'individus sur Terre réalisent. Là, ce qui se passe immédiatement, le monde s'arrête. Il n'y a plus de course. Donc, le yoga, c'est apaisement. Pourquoi c'est apaisement? Parce qu'on comprend que ce n'est pas la peine de voler. Ça se vit à l'intérieur de nous, dans toutes les activités intérieures, il y aura apaisement, parce qu'on a compris que la véritable nature, je sais, je suis le Dieu, mais si je m'établis pleinement dedans, il n'y a plus d'action. Donc, on fait deux mondes, le monde de réalisation de soi où il y a le vin apparaît. Il n'y a plus d'acteurs, il n'y a plus d'action. Le soir, c'est pour le soir. Il n'y a pas de non-soi. Le non-soi et le soir, la différence disparaît. Cette partie de nous, la prise de conscience de cette partie de nous qui va être révélée dans l'état de samadhi. Donc, le samadhi et l'ignorance sont comme lumière et obscurité. Quand le samadhi est établi à l'intérieur de nous, l'ignorance disparaît. Quand l'ignorance est élevée, le samadhi disparaît. Vous avez compris? J'espère que vous avez bien compris ça. C'est important. Donc, premier kesha, c'est-à-dire, quand on a dit samadhi, c'est l'état d'équilibre, donc on a besoin de voir ce que c'est le non-équilibre. La cause du non-équilibre, c'est l'ignorance. Et cette ignorance se produit une identité erronée de soi. C'est là que nous sommes, chaque individu, avec son corps, avec son psychisme. Et on se sent perdu dans cette vaste univers. Donc là, c'est le début de la souffrance. Donc, ignorance produit ego. Et après, ego, c'est-à-dire asmita, le mot sanskrit, une pensée. Je suis quelqu'un. Donc, je suis une entité. Donc, cette entité, une fois qu'on avait créé psychiquement, c'est imaginaire, quand c'est créé psychiquement, on a besoin de le décorer avec toute une description qu'on se donne. Donc, si je vous demande de parler de vous, qu'est-ce que vous allez me parler? Est-ce que, par exemple, vous pouvez m'aider? Je te demande qui es-tu?
Tu veux quoi comme réponse? Celle de l'ego?
Réponds-moi cette question.
Et je suis. Spontanément, je vais dire mon prénom, Alexandrine.
Oui, donc, ça, c'est le plat d'immatriculation.
Voilà.
Donc, je te parle de toi et tu me décris la belle. Et continuons.
En fait, on est amené à décrire ce que l'on fait, mais pas ce que l'on est.
Oui, donc on s'identifie par rapport à notre métier.
On est aussi le résultat de toute une lignée derrière nous.
Oui, on se décrit par rapport à notre passé, ce qui n'est pas vrai non plus. C'est-à-dire, toutes les descriptions de l'ego sont le non-soi. J'ai besoin pour que vous devez comprendre ça au début de ce chemin. Tout ce que je dis de moi, c'est pas moi. Si je dis je suis grand, petit, noir, blanc, jeune et vieux, ça c'est que des descriptions du corps et on va fatalement faire cette erreur. Tout ce que je dis de moi, c'est pas moi. Pourtant, tout le monde fait ça. J'aime ça, je n'aime pas ça, je n'aime plus ça, je n'aime pas avec ça. Et toutes nos opinions, nos pensées, toutes les idéologies, même voire politiques ou religieuses, ne sont pas nous parce que ça a été injecté de l'extérieur. Et pour le temps de le chercher, c'est forcé de l'extérieur vers l'intérieur. Tout ce qu'on se dit de soi, c'est le non-soi. Pourtant, on va le crisper dedans. Nous sommes prêts à faire tous les sacrifices pour le vivant. Donc, c'est cet ego, j'ai besoin que ça soit bien compris, cet ego se fortifie dans la connaissance, dans la puissance, dans la possession. C'est pour cela que ce monde, l'ego le détruit, parce que la possession va construire l'ego. Donc, on a besoin de posséder plus. Et souvent, des gens qui possèdent des milliers d'hectares, ils ne sont pas capables d'utiliser, bien sûr. Mais ils possèdent uniquement pour posséder. Mais pourquoi ils possèdent? Ils possèdent parce que leur ego est cultivé par la possession. Donc, deuxième, c'est puissance. Je peux faire mieux que personne. Donc, ça, nous sommes prêts à faire des sacrifices immenses, voire escalader les sommets des montagnes où il n'y a rien, ou traverser le pôle Nord à pied en prenant des immenses difficultés, aller traverser l'Atlantique en ramant, tout ce que vous voulez. Donc tout ce qu'on fait ça pour s'affirmer, et cette affirmation le yogi n'a pas besoin de le faire parce que on peut sortir. En fait, c'est un moment libérateur. Vous économisez énormément de possessions, vous économisez énormément d'énergie, et vous pouvez aussi économiser énormément de temps pour accéder à la connaissance. Parce que les yogis n'ont pas besoin d'affirmer son ego, parce qu'il s'identifie avec l'être qui reste sans aucun support. Donc l'ego est simplement une contraction, une tension, c'est une prétention. Donc l'ego va réaliser qu'il n'a pas besoin de ni connaissance, ni possession, ni puissance pour s'affirmer, parce qu'il est. Vous comprenez l'économie que nous sommes en train de faire? Il faut réaliser qu'il n'a pas besoin de s'affirmer parce qu'il est éternel, il est omniscient, il est omnipotent. Il était, il sera, il est hors de toutes sortes de peurs, de disparitions. Et sa nature véritable, c'est rien d'autre que la félicité. Donc, il peut même arrêter de chercher du plaisir et arrêter de sortir de toutes les peurs de la souffrance. Donc, c'est là qu'on va rencontrer les deux autres fléchas. Les deux autres fléchas sont aversion et attraction. Raga ou écha. Raga. Raga, c'est le premier klesha, c'est important de le réaliser pleinement. Ce n'est pas plaisir, mais ce qui suit après le plaisir. C'est une question que je vous pose. Qu'est-ce qui se passe après l'expérience du plaisir? Juste après. La plénitude. Et si c'était la plénitude, pourquoi on demande encore? Oui, on ressent un vide juste après.
Contentement.
Contentement dure combien de temps?
C'est selon le plaisir.
Alors, donc, c'est vrai que...
On a envie de retrouver.
Oui, exactement. surtout c'est ça, encore répéter même expérience encore. Mais le souci, c'est quand vous répétez, on ne retrouve pas exactement la même intensité. Peut-être plus, peut-être pas moins, on ne sait pas. De toute façon, les deuxièmes expériences, il n'a pas la même qualité que la première expérience. Donc, c'est l'ensemble de toutes les réponses que vous avez dit, c'est le Kesha, le troisième Kesha. C'est que ce suit après une expérience. Raga, c'est vraiment la nature de notre civilisation, c'est Raga. Nous sommes affichés par ça. Aussitôt qu'on a obtenu quelque chose, le monde change. Si on veut, un autre. C'est aussitôt, c'est aussi rapide. C'est-à-dire, l'ego impose des conditions pour être heureux. L'ignorance, ça cache la joie. Aussitôt que la joie innée de l'être est cachée, à la place, l'ego apparaît, mon jeu. Plus qu'on souffre, l'ego augmente. Donc, quand l'ego est apparu, vide de sens, vide de joie. Aussitôt, l'ego apparaît, il demande, voilà, pour moi, pour être bien, c'est des conditions. Il va imposer des conditions. Aussitôt que les conditions sont réunies, il va ajouter d'autres conditions. Ça, c'est grave. La résistance au mouvement. Donc, nous sommes dans l'attente de quelque chose. Aussitôt qu'on a quelque chose, c'est bon, c'est bien, c'est pareil, mais ça ne suffit pas, parce qu'on a besoin d'autre chose. Donc, ce mouvement, c'est commun pour tout le monde. On est occidental ou oriental, peu importe, c'est commun pour tout le monde. Et après, le Vesha. C'est le contraire de Raga, c'est le Vesha. C'est-à-dire, suite à un événement douloureux, ce qui se passe. Donc, aussitôt qu'on a une expérience douloureuse, comme on dit, on ne peut plus jamais, on ne peut plus voir ni entendre parler de ça. Donc, on ne
veut plus souffrir.
On ne veut plus souffrir, donc nous allons pour fermer les portes. On va devenir blindé. On ne veut plus toucher à ça. Donc, on se prive de cette expérience parce que ça nous fait souffrir. Donc ça, et ces deux, ça fonctionne ensemble. Hein? C'est ça notre mécanisme de vie. Ego ne fonctionne pas ça. Je veux ça, je ne veux pas ça. Et quelquefois, on est très clair de ce qu'on voit. On ne veut pas. Vous regardez. En fonction de l'âge, quand vous avancez dans l'âge, on est plus en plus clair de ce qu'on voit.
C'est
vrai. Parce que tellement des expériences
oui,
sont barrières.
Oui, je sais.
Mais si on demande aux adolescents, le début de leur vie, ils vont dire tout ce qu'ils veulent.
Des gens géniaux.
Donc il y a une période de raga et une période de dosha. Donc la vie peut être divisée en
dosha.
Au moment donné, raga c'est important, le dosha est moins important. Et puis petit à petit, le dosha augmente. Et raga réduit. Donc quand vous avancez. est dans l'âge, si on ne fait pas attention, le chat augmente. Et ça se voit. Ça se voit. Dans nos comportements, dans nos réflexions, dans les paroles, les deux chats s'expriment. Donc, ces deux sont des obstacles à la vie spirituelle. Et après, si on propose une solution, pour l'ego, de sortir de ce mécanisme, qu'est-ce qu'on dit ?
Méditer,
mais on n'a pas le temps.
Lâcher prise.
Oui, donc il y a énormément de réponses qui sont données tout au long de l'histoire de l'humanité pour sortir de ce problématique de l'ego. Énormément de réponses sont données, mais on ne veut pas sortir. On ne veut pas sortir de ce mécanisme parce que, entre-temps, on est tellement habitué à fonctionner dans la souffrance. Si on dit un jour, vous allez vivre sans la souffrance, ça me fait tellement peur. Je préfère de rester dans cette misère parce que je suis tellement identifié, je suis tellement bien dedans. Et on ne veut pas changer les situations. Ça s'appelle Apini Vesha, c'est le dernier Vesha que Patanjali nous propose. C'est résistance au changement. On ne peut pas changer les situations. Je veux rester dans le même rail.
Je voulais dire aussi qu'on peut aussi avancer dans l'âge, mais on peut aussi regretter ce qui s'est passé dans le passé. Avoir des regrets, même en avançant dans l'âge. On peut regretter de ne pas avoir fait certaines choses. À l'époque, on avait un certain âge. Voilà. Donc après, on peut vivre preuve aussi un peu à la souffrance de par rapport au passé. Quoi.
Oui, on se débrouille de toute façon. De toute façon, on n'a pas le choix, le temps passe. Le corps évolue, les expériences, les vies augmentent. Mais ici, l'objectif, c'est sortir de ce fonctionnement. Et c'est ça, on peut quitter. On peut quitter ces cinq, ça veut dire, on peut quitter l'ignorance, on peut quitter l'égoïsme, on peut quitter l'aga, on peut et à venir les gens. C'est simple, on peut quitter par la pratique de Kriya Yoga.
La pleine conscience.
Oui, c'est vrai, quand la lumière est là, il n'y a plus d'obscurité, sûr. Quand il y a la conscience, il n'y a plus d'inconscience, n'est-ce pas? Pleine conscience, c'est synonyme samadhi. Pour atteindre la pleine conscience, quels sont les moyens? Tous les moyens que nous entendons en ce moment, on parle beaucoup de pleine conscience, mais c'est mindfulness, c'est le mot que Krishnamurti a utilisé, c'est la première personne qui a utilisé, c'est mindfulness. C'est rien d'autre que ici et maintenant. Ici et maintenant. C'est vrai, si votre conscience restait attachée à ici et maintenant, les Shabbatat et Tassiadharma, c'est l'état de Dharma. La concentration, c'est le sixième membre de yoga. Donc vous êtes ici avec moi à la racine même de cette démarche. Nous pouvons changer, peut-être après 10 ans, vous avez trouvé un autre livre qui utilise un autre mot. Mais on ne peut pas sortir de ce qu'on vient de parler. On peut parler de pleine conscience, on peut parler d'énormément d'autres mots qui sont synonymes, mais le travail, ça ne s'improvise pas. Nous sommes obligés de pratiquer le Kriya Yoga. Donc c'est ça que nous allons découvrir cet après-midi. Yoga de l'action. Il y a quelque chose qu'on peut faire, qu'on doit faire concrètement pour changer ce mécanisme. Et toutes les méthodes que vous apprenez dans la pleine conscience n'est pas loin de ce que je vais vous raconter, mais ici, c'est abordé comme une science. C'est ça la différence. Oui, je peux utiliser une méthode de méditation guidée pour prendre conscience de mes sensations. Et ça a été dit et redit, si vous allez apprendre l'hypnose ericksonienne, il va dire la même chose. Si vous cherchez dans toute autre méthode de thérapie ou probable, il y a cet élément, mais c'est un des éléments, et pourquoi pas profiter de tous les éléments. C'est ça mes questions, pour que vous êtes à la racine de cet enseignement. Donc, toutes les possibilités sont étudiées. Je vais vous donner tous les moyens pour pouvoir être dans la pleine conscience. Donc, être dans la pleine conscience, ça se pratique de façon systématique, de façon méthodique. Donc ça, c'est le yoga. Mais ça va plus loin, parce que nous avons besoin aussi d'assurer la disparition du corps. Nous avons besoin aussi de comprendre que le temps, l'espace que nous vivons, ça aussi, ça passe. Donc, il y a cet aller-retour qu'on peut faire entre le temps et hors du temps. Hors du temps. L'espace qui est hors de l'espace. Donc, tout ça, c'est aussi fait partie de notre recherche. Je voudrais que cette rapide vision sur les 5 déjà, vous avez bien compris. Je suis à vous encore pour faire des questions si vous avez envie. C'est une très très bonne question parce que c'est pertinent. Donc, c'est touché universellement qu'il y a un dysfonctionnement. Imaginez que toute l'humanité est touchée par le même problème. Ça, on appelle Maya. Tout le monde voit le soleil, voit le ciel bleu. Tout le monde voit. Mais c'est pas vrai, il n'y a pas de bleu. Mais tout le monde voit. Donc c'est une erreur de perception généralisée, donc on appelle erreur généralisée, on appelle Maya. Mais erreur d'une personne, on appelle Avidyā. Parce que dans le yoga, on va prendre l'individu par un individu. C'est-à-dire, si vous sortez de votre ignorance, l'humanité n'est pas sortie de l'ignorance. C'est bien, tant mieux pour vous. Mais doit faire également le même chemin pour pouvoir sortir. Donc c'est ça la différence. Ego, c'est un problème personnel. Donc, ignorance, avidya, le mot sanskrit, avidya, ça c'est problématique. Donne un but. Maya, c'est collectif. Donc, on peut faire un petit break. Donc, il est 10h30, donc vous avez maximum 15 minutes pour démarrer notre pratique post.